Hashtag 2050 le podcast, c'est chaque semaine votre shoot de futur. Aucun effet secondaire, juste un trip vers 2050. Je suis Rebecca Armstrong, votre dealer. Ma cam, imaginez le monde de demain. Nous sommes dans ton bureau à l'Institut agronomique de Paris, c'est comme ça qu'il s'appelle ?
Oui, tu peux dire AgroParisTech.
AgroParisTech.
On est sur un des trois pôles d'AgroParisTech.
Oui, alors que fais-tu dans ce bureau qui est très vert ? Ça doit être un indice déjà, je pense.
Alors, ce que je fais pour avoir des plantes, ce que je fais ici, donc on est un bureau constitué de trois personnes. Mm-hmm. Qui coordonnons des projets d'éducation à l'alimentation santé et à l'alimentation durable.
Cette voix est celle de Manon Dugré. Au fil de cette conversation, nous parlerons de protéines, végétales et animales, d'alimentation médicalisée, d'initiatives inspirantes, des inégalités aussi, d'insectes et de viande de synthèse. Tout cela à partir de la bande dessinée « Manger vers le futur » réalisée par la chaire Anka, au laboratoire de nutrition de l'AgroParisTech, vous l'avez compris. Le futur commence ici et maintenant.
On est une chaire partenariale de l'école AgroParisTech, donc AgroParisTech qui forme des ingénieurs en agronomie. Et nous, on est rattachés au laboratoire de nutrition ici. Et on a pour vocation à développer des outils, des supports pédagogiques pour sensibiliser ou faire de la formation auprès de différentes populations sur la nutrition et l'alimentation durable.
Donc nous allons parler d'alimentation et durable, parce que justement on va faire ensemble ce voyage vers 2050, un voyage que tu fais déjà justement dans le cadre d'un projet en particulier, Manger vers le futur.
Oui. Effectivement, on a fait l'exercice de se projeter un petit peu dans les années à venir pour amener le lecteur à se questionner sur son présent.
Ouais.
Et je crois que c'est un peu le but du podcast.
C'est exactement la même chose, donc il fallait absolument qu'on se rencontre, pour faire un épisode ensemble. Alors, il y a déjà eu deux épisodes du podcast où on se posait la question de ce qu'on mettrait dans nos assiettes en 2050. Et là, ce qui va être intéressant dans cet exercice, c'est qu'on va se poser cette même question, mais avec toute la démarche scientifique qui a été menée pour réaliser ce dispositif de sensibilisation. Alors, je mettrai le lien vers le site web autour de cette BD. Le point de départ, ça a été quoi ? Quelles questions vous êtes posées pour commencer le projet ?
Alors la question de départ, elle est un peu complexe et pas forcément compréhensible. Mais à la base de la base, on avait envie de faire un support de sensibilisation sur la question de l'approvisionnement en protéines, puisque le laboratoire dans lequel on est basé ici travaille beaucoup sur cette question et que ça représente un des enjeux majeurs autour de notre alimentation dans les années à venir. On va être de plus en plus nombreux sur Terre dans les années à venir. Et quand on se projette, les projections en 2050 annoncent 9 milliards d'habitants. Et actuellement, la production de protéines sous toutes sources confondues, donc végétales et animales, ne permettrait pas d'assurer l'apport en protéines de cette population. Donc ça, c'est un premier enjeu auquel il va vraiment falloir trouver des solutions. Et la deuxième chose, c'est qu'on a un enjeu déjà actuel de devoir rééquilibrer ces sources de protéines et notamment d'augmenter la part des protéines végétales par rapport aux protéines animales. Donc ça, c'était la question de base un peu que se posent les chercheurs ici à AgroParisTech et dont on voulait un peu s'emparer. Et le point de départ, c'était aussi que derrière cette question-là, il y a pas mal de questions, notamment la question de la consommation de produits animaux, de viande, qui est un sujet extrêmement abordé dans les médias, qui est énormément diabolisé dans les médias. Donc ce qu'on voit passer en fait aujourd'hui dans les journaux, à la télé, c'est des reportages sur les abattoirs, avec un point de vue quand même très angoissant là-dessus. Donc il y avait aussi notre volonté d'apporter une source d'information crédible sur ce sujet-là qui soit plus apaisée.
Oui.
Donc notre scénario n'est pas catastrophique, comme le sont certaines des projections. Voilà, c'était ça le point de départ.
Donc cette question des protéines qui en même temps connectée à plein d'autres questions parce que passer de protéines, enfin se poser la question protéines végétales ou animales, c'est aussi par rebond se poser la question de la ressource en eau aussi par exemple. Enfin voilà, donc finalement il y a plein d'enjeux qui font que c'est toute l'assiette que vous avez projetée vers ce futur, vers le futur.
Oui, donc en fait, c'était effectivement cette question de départ qui, finalement, s'est un peu transformée avec un nouvel objectif qui était de répondre aux préoccupations du consommateur aussi sur, sur ces questions, pouvoir lui apporter une réponse sur, effectivement, est-ce qu'on allait réussir à nourrir ces 9 milliards d'habitants en 2050 qu'est-ce qu'on mangera qu'est-ce qu'il y aura dans notre assiette en 2050, est-ce qu'on deviendra tous végétariens? Parce que c'est des choses qui sont parfois annoncées. Est-ce que notre alimentation deviendra médicalisée, connectée? Donc c'était effectivement un peu apporter des réponses aussi à ça.
Et tout ce travail-là, il a été mené uniquement sur de la prospective scientifique, c'est-à-dire que les chercheurs ont fait des scénarios et vous les avez mis ensuite en images vulgarisées, où il y avait aussi une part d'imagination, de se dire, voilà, il faut aussi un peu rêver ou pour penser ce futur de notre alimentation.
La toute première étape, ça a été de compiler justement un petit peu l'ensemble des informations que l'on jugeait important à faire passer dans ce support. Donc on a constitué un dossier d'une cinquantaine de pages qu'on a constitué et fait valider par aller-retour avec un certain nombre d'experts, soit de l'école, soit de l'INRA.
Un peu un conseil scientifique un peu qui suivait le projet.
Oui, exactement. Donc comme c'est un thème, on l'a dit, qui est extrêmement multifactoriel, il a fallu aller chercher des experts de l'élevage, des experts plutôt sur les aspects de nutrition. Des sociologues, etc. Donc ça a été un gros travail de compilation, de validation de ce contenu. Et donc on s'est retrouvé avec cette masse énorme que l'on a dû traduire du coup. Et c'est là qu'on a rencontré un scénariste qui est spécialisé des nouveaux types de narration, qui s'appelle Benjamin Hoguette. Et en fait, à la base, on voulait faire un web documentaire, donc rien à voir avec le format de la BD. Et puis, au fur et à mesure des discussions avec lui, on est parti sur ce format de BD numérique.
Et donc, alors, cette BD, il faut absolument, je vous invite, chers auditeurs et auditrices, à aller voir. J'aimerais justement, alors qu'on essaye de s'imaginer dans notre cuisine en 2050, qu'est-ce qu'on trouvera dans nos placards, dans nos assiettes, pour, soit pour se faire plaisir, mais aussi pour se nourrir.
Alors, je ne sais pas si je peux me prononcer sur la question avec une assurance folle.
Oui, mais... non, il n'y a pas de vérité, c'est juste.
Non, il n'y a pas de vérité, mais peut-être quelques indices sans trop spoiler le contenu de la BD. Je pense, en tout cas, j'espère qu'on aura eu une prise de conscience sur l'impact que peut avoir notre consommation, nos choix alimentaires sur l'ensemble de la société et de la planète. Donc je pense que notre consommation deviendra peut-être plus respectueuse de l'ensemble de ces valeurs. Ensuite, un scénario qu'on aborde quand même dans la BD, c'est qu'on aura tendance à réduire notre consommation de viande au profit d'autres sources de protéines. C'est quelque chose qu'on voit déjà beaucoup aujourd'hui. La part de la population qu'on appelle les flexitariens, c'est-à-dire des personnes qui réduisent de manière consciente la part de viande et de produits animaux dans leur régime, c'est déjà quelque chose qu'on observe en fait. Donc on pense que ça, c'est quelque chose qui va se concrétiser encore plus à l'avenir. Changer un peu notre rapport en tout cas à la consommation de viande, c'est quelque chose qu'on aimerait montrer au travers de la BD, en consommer moins mais mieux. Ensuite, je pense qu'il y a d'autres sources de protéines qui vont se développer. On parle beaucoup des protéines végétales dans la bande dessinée, et notamment des légumes secs. Donc j'espère vraiment qu'on mangera plus de légumes secs à l'avenir.
Et alors, je pense à un point alors, qui n'est pas le cœur de ton travail, mais tu le disais, 9 milliards d'habitants sur la planète en 2050. On sait qu'à peu près 75% de la population mondiale sera urbaine. Mm-hmm. Donc, des enjeux aussi de proximité. Tu disais changer notre rapport à la consommation, les impacts planétaires. Donc, la question des circuits courts sera en plein dans notre façon de nous alimenter dans le futur. Il y a aussi cet enjeu, comment on va réussir, avec cette densité urbaine de population, à rapprocher la production de la consommation, et puis aussi se poser la question de la résilience des villes. On sait qu'une ville comme Paris, je crois, en termes d'alimentation, elle a une autonomie de quelques jours uniquement. Mmh. Donc voilà, ça pose aussi ces questions-là.
C'est vrai que ça fait partie des thèmes qu'on aurait voulu développer un peu plus dans la BD, mais qui est un sujet passionnant, comment est-ce qu'on approvisionnera les villes. Mmh. Alors, je n'ai pas l'expertise là-dessus, mais en tout cas, on a eu la chance d'interviewer une chercheure ici d'AgroParisTech qui travaille d'ailleurs sur les toits de l'école.
D'accord.
On a un jardin sur le toit, wow. sur lequel on mène pas mal d'expérimentations. Et du coup, je retranscris ce qu'elle m'a dit, que je trouvais vraiment intéressant. C'est que selon elle, donc elle travaille sur l'agriculture urbaine, vraiment sur les nouveaux types d'agriculture dans les villes. Et elle, ce qu'elle dit, c'est que l'agriculture urbaine ne permet pas actuellement d'alimenter les villes. Alors, ça va probablement évoluer à l'avenir. Mais ce qu'elle voit, elle, comme véritable intérêt à cette nouvelle proximité, c'est plutôt tout l'aspect de sensibilisation et d'éducation des populations. Ouais. Mmh. Qui finalement rejoint pas mal les objectifs de la chaire en cas. Donc ça, je trouve ça vraiment chouette. Finalement, c'est toute cette distanciation qu'on observe avec l'industrialisation, en fait, de plus savoir comment est-ce qu'on produit les produits.
Oui,
voilà,
c'est ça. Ouais.
C'est quelque chose qui génère beaucoup de stress dans le comportement des consommateurs aujourd'hui. Et du coup, finalement, ça peut être un enjeu aussi majeur de se dire si on arrive à limiter cette distanciation et reconnecter, c'est des choses qu'on entend partout, hein, mais reconnecter l'homme à la nature.
Ça permet aussi de reprendre conscience de ce que l'on décide de manger, quoi, le fait de connaître le circuit. Tu parlais tout à l'heure de la question, est-ce que notre alimentation sera plus médicalisée ? C'est vrai que si on pense un peu à la prospective, mais à la façon de la science-fiction, on pourrait imaginer que tous les matins, je ne sais pas, je pose mon doigt sur une machine et qu'il me dirait aujourd'hui, il vous faut tant de magnésium, de protéines, etc. Et puis que, ben voilà, que ce soit la technologie qui dicte notre alimentation. Ça paraît complètement dystopique, utopique, ou dans l'angle médicalisation de l'alimentation, qu'est-ce que vous avez vu apparaître avec ton équipe?
Alors, c'est drôle que ce que tu dis, parce que ça me fait vraiment penser à une réplique d'Edgar dans un des épisodes qui dit qu'il ne va pas laisser son ADN lui dicter sa vie, puisqu'il a fait un test génétique qui lui dit qu'il a un risque plus important d'avoir des maladies cardiovasculaires et qui donc doit réduire sa consommation de viande, sachant que c'est le carnivore, le viandard du groupe.
Ouais.
Il le prend un peu mal. Mais c'est une vraie question que se posent aussi des chercheurs ici. La médicalisation de l'alimentation, c'est plein de choses. C'est effectivement, est-ce que plus tard, on aura des machines qui vont nous dire exactement quels sont nos besoins, quels sont nos risques et du coup, qu'est-ce qu'on doit manger. Ça fait déjà référence à beaucoup de choses qui apparaissent aujourd'hui, des start-up comme Feed ou Soylent qui développent des boissons repas qui permettraient de couvrir tous tes besoins nutritionnels en un repas sous forme de poudre déshydratée dans lequel tu rajoutes de l'eau.
Appétissant.
Et, j'ai envie de dire, c'est bientôt l'heure du goûter.
Ouais, voilà, c'est ça.
Donc, c'est un petit peu compliqué pour nous Français d'imaginer que ça va vraiment se concrétiser.
Ouais. Est-ce qu'il va y avoir un véritable marché, une véritable demande pour ce type de produit?
Ce que disent les sociologues, c'est que effectivement, sur le territoire français, on a quand même une culture de l'alimentation, de la cuisine qui est très importante. Donc, bien sûr que ça se développera auprès d'une partie de la population, c'est déjà le cas. Il y a un marché, même en France, mais on va dire qu'aux États-Unis, par exemple, on n'a pas du tout le même rapport à l'alimentation. On est dans un rapport beaucoup plus médicalisé.
Ouais.
En fait, les Américains, quand tu leur demandes la composition nutritionnelle d'une, je sais pas, d'une tomate, ils vont être bien plus calés que nous, Français,
d'accord,
en fait.
Ouais.
Ils réfléchissent beaucoup en termes de nutriments. Donc, nous, on n'a pas vraiment envie de véhiculer cette vision de l'alimentation.
Ben oui, oui.
On pense que l'alimentation, ce n'est pas des nutriments, ce n'est pas des aliments, c'est de la cuisine, c'est des plats,
des saveurs,
des
odeurs,
repas, c'est des occasions de rencontres.
Et d'ailleurs, le repas, je crois, est classé au patrimoine immatériel de l'UNESCO, je crois. Il y a quelque chose comme ça.
La cuisine française
avec le concept du, voilà, de la prise. Ouais.
Après, ça va forcément évoluer, les manières de table. Effectivement, on se pose aussi cette question-là. Est-ce qu'on arrivera encore à manger ensemble en 2050, sachant qu'il y a de plus en plus de régimes alimentaires?
Mais oui, l'allergique au gluten, le vegan, etc. C'est vrai qu'autour d'une table, de plus en plus, on se pose la question, tiens, j'invite des amis, ouais, est-ce qu'ils mangent quoi?
On se retrouve dans des situations un peu loquaces est-ce que j'amène mon tupperware?
C'est ça.
Est-ce qu'on ne va pas vexer? Donc, c'est une vraie question qu'on peut se poser. Bon, après, nous, on a un discours un peu plein d'espoir. Je pense que, bien sûr, on continuera de manger ensemble. Il va y avoir on va réinventer des nouvelles façons de manger ensemble aussi. Je pense que les personnes vont quand même avoir de plus en plus une alimentation spécifique. C'est une manière aussi de reprendre contrôle sur son alimentation.
C'est vrai aussi.
Donc ça, je pense que ça va continuer, mais je suis persuadée qu'on arrivera encore à manger ensemble en 2050. Ce serait vraiment très triste.
Il n'y a pas très longtemps, je lisais un article, pareil, qui faisait une projection à 2050 et qui disait, en prenant l'exemple du riz, par exemple, que ses qualités en fait, nutritives avaient vraiment baissé au fil des années et disait, ben voilà, pour tout toutes les populations dont le riz est la composante principale de l'alimentation, en 2050, il aura tellement baissé en qualité que potentiellement 150 millions de personnes seraient confrontées à des carences nutritives. Donc j'imagine que les chercheurs aussi se posent ces questions à force d'avoir sélectionné des types de riz, de blé, de plein de choses. On les appauvrit aussi avec la terre qui s'appauvrit, les sols qui sont abîmés, etc. Donc ça aussi, c'est un enjeu de l'alimentation du futur.
Oui, c'est certainement un enjeu important. Je pense que l'industrialisation y est pour beaucoup. On a dû un peu formater, on va dire, la production industrielle. Fait qu'on a dû un peu formater la composition des aliments et forcément au détriment de certaines autres choses. Le procédé de transformation alimentaire fait que des fois on va faire des choix pour que l'aliment se conserve plus longtemps. On va faire des choix pour qu'il se... par exemple, si tu prends une mousse au chocolat, que tu fais une mousse au chocolat maison, tu n'as pas besoin que ta mousse au chocolat, elle tienne 2 semaines, 3 semaines.
Mais non, parce qu'on se l'enfile tout de suite.
On se l'enfile tout de suite. Donc forcément, l'agroalimentaire a fait qu'on n'a pas toujours fait les choix en fonction de la qualité nutritionnelle et la santé, etc. Après, j'ai pas de connaissances très très précises là-dessus. C'est sûr qu'il y a une part de réalité, l'appauvrissement des sols, la biodiversité, c'est des choses qui sont extrêmement importantes pour les chercheurs.
Oui, et puis il y a un enjeu fort autour de la préservation des semences, des espèces. On sait qu'il y a de plus en plus de petites fermes, où d'ailleurs les agriculteurs qui s'en occupent se revendiquent comme étant paysans, justement, et pas des exploitants de la terre, et justement préservent ces semences, ces productions, ces cultures qui ont d'autres qualités qui ont été perdues dans l'industrie agroalimentaire. Un des enjeux, j'ai l'impression aussi pour notre assiette en 2050, parce qu'on parlait d'industrialisation, pour nourrir 9 milliards d'habitants, on ne peut pas se passer de l'industrie agroalimentaire. Par contre, il faut qu'elle change de modèle. Est-ce qu'après avoir fait tout ce travail de collecte d'informations, tu as le sentiment que tu as pu repérer, voir des initiatives qui te font dire que OK, le chemin peut être compliqué, mais qu'il y a quand même matière à se dire que les acteurs sont suffisamment présents pour faire bouger les choses.
Oui, bien sûr, heureusement, et ça faisait aussi partie de nos objectifs. C'était, on fait l'exercice de se projeter dans le futur, mais on veut aussi montrer que la transition, elle a déjà commencé à plein de niveaux, en fait. Et ces initiatives qui voient le jour partout dans le monde, toutes les étapes de la filière portées par des acteurs aussi divers et variés que des éleveurs, que des jeunes qui vont monter leur boîte pour inventer des nouveaux produits. C'est des choses qui méritent d'être connues. Donc, La bande dessinée, elle s'accompagne d'articles qu'on a rédigés voilà, sur chacun des épisodes et notamment une carte des initiatives pour montrer un peu un panorama alors non exhaustif parce que bien sûr le travail est...
Je pense qu'en la matière, l'exhaustivité serait impossible. Ouais. Voilà.
Mais en tout cas, de faire une sélection d'initiatives qui nous paraissent vraiment pertinentes et qui méritent d'être connues.
Alors, est-ce qu'il y en a quelques-unes comme
ça? Oui, je pense à plein. J'en pense, ouais. Je pense à plein, là, tout de suite. Mais... par exemple, on met en avant une initiative qui s'appelle Bleu Blanc Cœur, qui n'est pas vraiment une initiative, puisque ça fait un petit moment maintenant, je ne sais pas si tu connais, c'est un label en fait, qui s'est développé. Tu peux acheter des produits Bleu Blanc Cœur dans tous les supermarchés. Et en fait, ce qui est très intéressant dans cette démarche, c'est qu'ils ont trouvé un moyen de jouer sur l'alimentation animale pour améliorer... les produits finis en termes de qualité et également les impacts sur l'environnement, etc. Je m'explique. La démarche Bleu Blanc Cœur, en tout cas ce que moi j'en connais principalement, c'est d'enrichir l'alimentation animale en lin, ce qui fait que les produits en fait, animaux finaux vont être enrichis en oméga 3, qui est un... dont on en mange très peu aujourd'hui, en fait, ça fait partie peut-être des seules choses dont finalement on en consomme pas assez, pardon. Ouais. Et ça permet aussi de limiter les rejets de méthane par les vaches, par exemple, sur l'environnement. C'est quelque chose d'hyper vertueux, en fait, parce que ça paraît tout simple de se dire si tu donnes une meilleure alimentation aux animaux, ils vont se porter, ils vont être en meilleure santé, les produits qu'ils vont fournir seront de meilleure qualité, etc. Donc, il y a des chefs ici qui vont s'approvisionner que en produits Bleu Blanc Cœur parce que la viande est beaucoup plus tendre, beaucoup plus goûteuse, etc. Donc, voilà, ça, je trouve ça vraiment intéressant. Je pourrais parler d'autres. Je sais pas, il y a plein de choses. Il y a la lutte contre le gaspillage. Il y a des applications comme Too Good To Go qui permet de récupérer des invendus alimentaires. Ça, c'est, je trouve ça génial. Ça marche hyper bien. Ouais. Après, tu as plutôt tout le côté éducatif qui, du coup, nous parle beaucoup. Je pense que cette transition, elle aura lieu aussi si on arrive à sensibiliser suffisamment les futures générations.
Alors, il y a la sensibilisation et puis il y a la question aussi du prix. Est-ce que justement les bons produits, est-ce qu'ils vont tendre à devenir de plus en plus rares dans le futur, en 2050, ou pas? Et donc, qui dit rareté dit prix plus élevé. Et on sait qu'aujourd'hui, les personnes, les populations qui ont le pouvoir d'achat le plus faible, eh ben, elles sont de plus en plus nombreuses, qu'on ce soit en France ou ailleurs. Donc, il y a un véritable aussi enjeu d'égalité. Mmh. Est-ce qu'en 2050, bien manger, ça sera réservé à des élites financières ou pas, quoi?
Ça, c'est une vaste question. La question des inégalités, c'est une question primordiale, je pense, aussi. D'où l'importance d'envisager cette transition sans laisser personne de côté et de pas justement aller sur des modèles qui ne concerneraient qu'une certaine partie de la population. Dans la BD, on porte un scénario plausible qui, justement, montrerait que la viande pourrait devenir un produit de luxe. Dont on connaîtrait tout, l'élevage, le nom de l'éleveur, justement...
Quasiment le nom de la vache.
Le nom de la vache, etc. c'est un scénario un petit peu rigolo sur lequel... mais pas complètement fou, parce qu'on le voit déjà aujourd'hui. J'espère vraiment que ce ne sera pas une réalité. Ce que je peux relater, par exemple, c'est qu'une autre initiative que j'ai rencontrée, c'est une école qui s'appelle Motanaï, qui, justement, travaille comment on fait pour avoir une filière animale durable, comment on fait pour manger de la viande durable, parce que la solution, c'est peut-être pas d'arrêter d'en manger, mais d'en manger mieux, comme on disait tout à l'heure. Et elle, justement, quand je lui posais cette question de « mais est-ce que ce sera accessible à l'ensemble de la population ?», elle me disait que pour elle, la première base, c'était d'éduquer le consommateur à se renseigner sur le produit. Et je trouvais ça, finalement, assez juste. C'est vrai que aller déjà dans la première boucherie de quartier et puis poser des questions au boucher sur l'origine de l'aliment, sur comment le cuisiner, etc. C'est cette démarche vertueuse qui fait que on jouera aussi sur nos choix et donc sur le reste de la filière.
Tout à l'heure, on parlait de start-up qui développent de nouveaux produits. Et il y en a aussi une ou deux en France qui commencent à commercialiser des insectes, notamment pour l'apéritif. J'ai eu l'occasion déjà de goûter pour voir. Est-ce qu'en 2050, on sera habitué finalement en France à cette consommation-là, puisque les apports en protéines sont plutôt importants, et puis les insectes, avec le changement climatique et le réchauffement climatique, on a certaines espèces qui vont se développer de plus en plus.
Alors oui, c'est une des solutions proposées, notamment pour apporter une source de protéines importante. Quand on pose la question au nutritionniste, ils vont me dire oui, c'est effectivement très riche en protéines. Quand on pose la question au sociologue, il va dire oui, mais non. Ça ne prendra jamais dans un pays comme la France. Finalement, sur les insectes, ça fait partie pour moi des innovations qui font un peu le buzz aujourd'hui, dont on ne sait pas encore grand-chose. Je pense que les insectes pour l'alimentation humaine, ça me paraît difficile quand même. Pour donner une anecdote, il y a eu un moment où on a décidé d'intégrer dans la préparation de formulation de gâteaux de l'huile de poisson, justement très riche en oméga 3. Ça n'a pas du tout marché. Parce que juste il y avait un blocage psychologique qui ça ne faisait pas partie des associations liées aux produits, donc ça ne fonctionnait pas. Par contre, les insectes pourraient être très intéressants pour l'alimentation animale.
C'est vrai. Pour améliorer, on en parlait tout à l'heure aussi.
Alors après, c'est pareil, quand tu poses la question aux chercheurs, ils vont te dire oui, mais on n'a pas tout, on n'a pas réfléchi à tout. Ça pose des questions sur la sécurité des installations d'élevage. Quand une dizaine de vaches s'échappe, il n'y a pas trop de problèmes. Mais quand tu as un million d'insectes qui se baladent, ça peut poser plus de questions. C'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément. Ouais. Et puis, il y a une autre chose qu'ils annoncent souvent, c'est que finalement... pour élever des insectes, on pensait qu'on pourrait leur donner des déchets pour simplifier. Et en fait, non, on se rend compte que finalement, c'est des intrants aussi coûtent. Donc, les rendements ne sont pas aussi incroyables que ce qu'on espérait.
Pour revenir à des aspects un peu technologie, il y a eu des expérimentations avec la viande de synthèse. Parce que tu disais... un des scénarios vraiment plausibles, c'est de dire qu'on mangera moins de viande. Mais est-ce que ça, pour le coup, pareil, les chercheurs se posent cette question et est-ce qu'on pourrait passer le pas de ce type de produit ?
Sur la viande de synthèse, je vais un peu apporter une réponse similaire. Les nutritionnistes disent oui... effectivement, on peut réussir la prouesse technique d'avoir un aliment qui aurait une composition nutritionnelle proche de la viande. On sera probablement capable de le faire. On est déjà capable de le faire, on sera probablement capable de le faire. Mais ils disent aussi pourquoi. Pourquoi faire ça ? Aujourd'hui, c'est quelque chose qui coûte extrêmement cher. Ce qui est annoncé, ce qui est généralement l'argument phare, c'est de limiter la souffrance animale. Mais en fait, les personnes qui sont sensibles à cette question-là, si tout le monde est sensible, ne vont pas se mettre à manger de la viande de synthèse, je ne pense pas. C'est quelque chose qui coûte encore extrêmement cher. Je ne pense pas que ce soit une solution.
Et puis qui viendrait aussi en concurrence avec des filières de qualité.
Et puis je pense que ça va poser aussi problème parce que les personnes qui cherchent à changer leur régime alimentaire et qui du coup pourraient être intéressées par des alternatives à la viande, je pense qu'ils vont être bloqués par l'aspect naturel de ce produit qui finalement est cultivé dans des laboratoires. Donc je pense que quand on parle de boîte noire, de on ne sait pas trop comment c'est fait, là je pense qu'il peut y avoir aussi pas mal de blocages. Mais ce n'est que mon avis.
Donc finalement, on peut être un peu optimiste. Il y a des défis, nourrir tout le monde, nourrir les villes, nourrir tout le monde, quelles que soient les capacités financières. La qualité des produits, si, pour toi, à travers tout ce travail, quel serait le premier défi, le défi essentiel à traiter dès maintenant, dans le présent, en 2018, pour avancer vers le meilleur des scénarios ?
Sur notre thème phare de la BD, ce serait de réussir à mieux répartir les ressources. Mmh. Quand on parlait d'inégalité, il y a beaucoup d'inégalités nord-sud notamment. Donc ce serait comment est-ce qu'on arrive à mieux répartir ces ressources et notamment nos protéines. Mmh. Donc si en Occident on arrivait à diminuer un petit peu notre part de protéines animales et puis aller sur d'autres types de sources et puis voilà, réussir à ce que tout le monde ait accès à une alimentation de qualité, ce serait une très bonne chose. Et je pense que l'enjeu essentiel de notre époque, c'est d'avoir cette prise de conscience. Mmh. Donc effectivement, changer nos comportements, oui, mais déjà avoir conscience de tout ça
et de la complexité
de la chose, parce que changer nos systèmes alimentaires, c'est pas quelque chose qui se fait comme ça en un claquement de doigts. Ben, ça concerne énormément d'acteurs différents. C'est des décisions politiques, des choix individuels. Donc, pour moi, ce serait réussir à montrer justement la complexité de cette question et de montrer que tout le monde a un rôle à jouer, sans avoir un discours moralisateur et culpabilisant, parce que c'est pas du tout ça, mais plutôt au contraire, à notre échelle, on peut tous apporter une pierre à l'édifice. Hein.
Et puis, alors, c'est vrai que tout ce travail aussi fait le lien avec, évidemment, les questions de santé, c'est indispensable. La bonne alimentation, ça permet, ce sont des coûts évités en termes de coûts sanitaires, et on n'a pas encore suffisamment cette culture de la réflexion au coût global qui permettrait de dire, ben voilà, si on investit là, c'est d'autant plus qui est évité dans tel domaine un peu plus tard dans la chaîne. Donc voilà, il va falloir taper au bureau du ministère.
À la lecture de la BD.
Voilà, c'est ça.
Ben, je suis pas contre.
Exactement. Pour finir cette conversation, j'aimerais que tu formules un vœu pour 2050. Alors ça peut être le vœu de pouvoir encore manger du chocolat de qualité en 2050. Je ne sais pas si tu es amatrice. Enfin bref, chocolat, un vœu pour 2050. C'est vrai que j'avais lu des articles sur 2050, le chocolat, où ça serait vraiment un produit, pour le coup, rare. Où il y aura une véritable tension entre offre et demande.
Je vais commencer à faire des stocks dès maintenant. Voilà, <alors. c'est> Un vœu, ce serait que n'importe qui sur cette planète puisse se nourrir de la manière dont il le souhaite, sans stress et voilà, de manière vertueuse sur la planète.
Parfait. Eh ben, j'accompagne ce vœu.
C'est
aussi
ambitieux.
Hein, ouais, c'est ambitieux. Ben, merci beaucoup à toi.
Merci à toi. C'était très sympathique.
Manger vers le futur, c'est donc un site web, une histoire en BD pour chaque année de 2010 à 2050, enrichie de contenus, cartes, articles, tests, etc. Et en 2018, parce que nous sommes encore un peu en 2018, la BD s'ouvre avec une référence à du bœuf élevé au cidre en Normandie. Alors forcément, je suis normande, donc je m'arrête là-dessus, parce que cet éleveur, c'est aussi un ami, François-Xavier Craquelin. Et figurez-vous qu'il y a quelque temps, un an à peu près, on avait fait une petite vidéo pour évoquer son métier d'éleveur, alors je vous mets le lien. Ne vous inquiétez pas, dans cette vidéo, vous me verrez dans une baignoire. Mais si vous voulez aller directement à la rencontre avec FX, vous avancez un petit peu, ça se passe à 5 minutes et 39 secondes. Il me reste à vous souhaiter de passer de très bons moments jusqu'au prochain épisode, et d'ici là, soyons toujours